Bonjour, c'est Olivier Prédhomme, je suis le chef du service reportage de BFM TV. Une semaine après le début des émeutes en Nouvelle-Calédonie, en réaction au projet de réforme visant à élargir le corps électoral, les équipes de BFM TV viennent d'arriver sur place. À Nouméa, la situation est toujours très instable, certaines routes restent bloquées, l'aéroport international est fermé, des affrontements ont lieu toutes les nuits dans plusieurs villes de Nouvelle-Calédonie. C'est dans ce contexte que nos reporters Clémence Dibou et Domiti Berthaud sont à Nouméa. Comment sont-elles arrivées sur place? Comment travaillent-elles? Quelles précautions doivent-elles prendre? Nous sommes le lundi 20 mai, il est midi à Paris, 21h à Nouméa. Journaliste au cœur des émeutes calédoniennes, c'est le 62e épisode du service reportage. Salut Clémence, salut Domiti.
Salut Olivier.
Salut Olivier.
Vous êtes toutes les deux à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Calédonie, pour couvrir ces émeutes à Nouméa. Vous êtes arrivées dans la nuit de vendredi à samedi. L'aéroport international de Nouméa est fermé depuis quelques jours. Les autorités viennent d'annoncer qu'il resterait fermé aux vols commerciaux jusqu'à jeudi, 23 mai. Comment vous avez fait pour arriver sur place? Quel a été votre périple?
Ouais, c'est un long périple, ça on peut le dire. En fait, on a réussi à se greffer à un vol militaire, puisqu'il n'y a absolument plus aucun vol commerciaux. Et même un vol militaire, ça reste très compliqué. En fait, c'était un avion civil affrété par l'armée. Donc, quand tu rentres dans l'avion en direction de Tokyo pour le premier vol, qui dure à peu près 14 heures, c'est un vol classique que tu pourrais prendre quand tu pars en vacances. Sauf qu'à bord, il n'y avait que des militaires, quelques rares journalistes dont on faisait partie avec Domiti. Donc l'ambiance était déjà un peu, on va dire, à la concentration. Il y avait beaucoup de gendarmes, quelques policiers, des sapeurs-pompiers. Ensuite, une escale à Tokyo. Et là, on prend un vol qui n'existe plus dans le commercial. C'est Tokyo-Nouméa. Donc c'est 8 heures de vol. Et on pensait enfin être arrivé à l'aéroport international de Nouméa. On savait que l'armée allait pouvoir nous escorter jusqu'à Magenta, parce que l'aérodrome de Magenta, dans le centre-ville, parce que la route est très dangereuse, était jonchée de barrages. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'elle était si dangereuse qu'il était impossible d'envisager, même pour l'armée, d'y aller en voiture ou même en convoi. Donc il a fallu prendre un petit vol pour faire ce qui n'existe pas dans la vraie vie. Hein. Ce vol n'existe pas, puisque c'est à une quarantaine de kilomètres l'un de l'autre. Et donc, c'était un mini saut de puce au-dessus de la ville de Nouméa pour faire l'aéroport international. L'aérodrome, c'est comme si tu prenais un vol Charles de Gaulle-Versailles, en gros, parce que la route était impraticable. Ça donne déjà l'ambiance quand on se pose après presque 24 heures de voyage.
Justement, dans ce vol que vous avez pris avec l'armée, vous étiez la seule équipe de journalistes ou il y avait d'autres journalistes français?
On était une poignée de journalistes français. Il y avait, en plus, avec nous, il y avait deux autres télés, une agence et deux journalistes de presse écrite de quotidiens nationaux. Donc c'était vraiment quelques-uns.
Donc c'était clairement le seul moyen d'accéder à Nouméa, d'aller en Nouvelle-Calédonie, c'est de prendre un vol affrété par l'armée. Il n'y avait pas d'autre moyen.
Oui, tout à fait, il n'y avait pas d'autre moyen parce qu'en fait, tout simplement, l'aéroport de Nouvelle-Calédonie est fermé. Donc en soi, personne ne peut y accéder, sauf évidemment les militaires.
On pourra en parler aux équipes coincées à Sydney pendant plusieurs jours.
Oui, effectivement. On a actuellement deux équipes encore qui, eux, ont pris des vols commerciaux en espérant arriver un jour à Nouméa et qui sont bloqués depuis trois jours à Sydney. Donc là, ça y est, vous êtes enfin à Nouméa. Quelles sont vos conditions de travail sur place? Est-ce que vous êtes protégé? Vous avez des équipements de sécurité? Comment ça se passe au quotidien? Expliquez-nous.
Déjà, avant tout, dès notre arrivée, on a retrouvé notre fixeur, qui c'est une personne sans qui on peut absolument pas travailler. Donc, c'est quelqu'un qui connaît le terrain, qui habite sur place. C'est lui qui va nous mettre en contact un peu avec les gens et qui va nous aider à travailler au quotidien. Et du coup, pour travailler dans des conditions, en Nouvelle-Calédonie actuellement, on a quand même pris avec nous, au cas où, des équipements de sécurité type, c'est pas des vrais gilets pare-balles, c'est des gilets à plaques.
C'est des pare-lames.
Pare-lames. C'est des gilets pare-lames et une trousse de secours, un casque, au cas où, si jamais ça dégénère.
Parce que ça tire à balles réelles, respectivement. Mais tu vois, le fixeur dont parlait Domiti, donc les pixeurs avec qui on a l'habitude de travailler, c'est plus un profil un peu producteur ou en tout cas journaliste. Et là, en fait, notre fixeur, c'est un agent de protection, un APR, ce qu'on appelle un APR, un agent de sécurité. En fait, il travaille dans la sécurité. Et en fait, c'est beaucoup plus le profil qu'il nous faut ici, à l'heure actuelle, en ce moment pour Nouméa, de savoir où tel quartier en ce moment, il ne faut pas aller, tel quartier est plus calme en ce moment, tel quartier, j'ai une connaissance, je vais pouvoir vous faire rentrer parce que je connais le gars et donc, du coup, vous allez pouvoir leur parler. Ce barrage-là, à cette heure-ci, c'est trop chaud, il faudra y aller demain. C'est vraiment le genre de conseils vitaux sans lesquels on ne pourrait pas, ce serait assez dangereux de travailler parce que la situation à une rue près, à l'heure près, bon, les quartiers chauds sont connus, mais ça, c'est tout le temps évolutif et ça pourrait être soit très dangereux, soit une opportunité manquée. Donc c'est tout ça qui nous est précieux.
Et justement, avoir ces par lame, donc ce ne sont pas des gilets par balles, hein, ce sont des gilets par lame, vous êtes quand même sur le territoire français, ça n'arrive pas tous les jours. Comment on se met dans des conditions pour travailler comme ça?
Ouais, bah tu vois, cet après-midi, en fait, on était dans une position, enfin, on était à l'aérodrome, et en quelques instants, il y a eu des affrontements, donc type manif bien énervé, gaz lacrymo, il y a eu des tirs à balles réelles, donc nous on était un petit peu loin, mais notre APR nous a demandé de mettre le gilet par lame. Et tu as raison, je crois que c'est la première fois, moi, que j'en mets un sur le territoire français, effectivement. Donc c'est vrai que c'est assez lourd de sens, et c'est vrai que la situation est très particulière ici, quoi.
Justement, Clémence Domiti, vous me disiez la dernière fois, parce qu'on se parle quand même, on se parle tous les jours, vous me disiez, on sent une tension qui est palpable dès qu'on sort dans la rue, mais on la voit pas particulièrement, à part le soir où les barrages, où les personnes redescendent sur les barrages. Comment vous faites pour appréhender le danger, en fait ?
Mais là, ici, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'effectivement, sur un terrain de guerre, il y a une ligne de front, il y a un contexte, on sait exactement à peu près là où ça va tirer, là où ça va pas tirer. Déjà, là, comme tu l'as dit, on est en France, et donc déjà, de base, dès qu'on est arrivé, personnellement, je pense que Clémence aussi, c'est impressionnant de voir des barricades partout dans la ville, que ça soit d'un côté, d'une opinion ou de l'autre. Quasiment toutes les rues sont barricadées, donc c'est-à-dire sont fermées. Et c'est les habitants de ces rues qui décident qui rentre, qui sort dans chacun des quartiers de la ville. Donc déjà, ça, c'est extrêmement impressionnant. Mais ça, ils sont là de jour comme de nuit. Sauf que la nuit, les barricades, elles sont fermées. Là, ils décident qui rentre et qui sortent. De jour, ils laissent ouvertes les barricades et ils surveillent quand même, ils contrôlent chaque personne qui rentre dans leur quartier. Donc du coup, en fait, le danger pour nous, c'est qu'on sent que du coup il y a une tension dans la ville palpable, permanente, mais on ne sait absolument pas d'où le danger peut venir, comment il peut venir, pourquoi il peut venir. On sent qu'il y a une petite mèche qui est là, qui peut s'allumer à n'importe quel moment, mais on ne peut pas savoir quand ça va s'allumer.
Oui, c'est ça, parce que tu vois, l'exemple concret, on a passé donc toute une soirée avec des résidents d'une grosse barricade à l'entrée des quartiers sud, donc qui étaient aux avant-postes, on va dire, et c'était hyper tendu, en fait. Parfois, le gars s'arrêtait de parler en pleine interview pour regarder derrière lui parce qu'il y avait une voiture qui arrivait. Les échanges parfois avec les automobilistes sont super tendus. Il voulait pas qu'on les filme pour pas être reconnu. Et en même temps, factuellement, ce soir-là, il ne s'est rien passé. Donc, en image, c'est ça qui est difficile à expliquer. En image, tu as une situation où tu as des hommes cagoulés avec des pierres à disposition, tout ça s'il faut. Et en même temps, tu n'as pas de violence à l'antenne. Et pourtant, elle est sous-jacente un peu partout dans la société. Donc, c'est ça qu'il faut gérer ici.
Vous avez tourné votre premier reportage dans la nuit de samedi à dimanche, hein, sur un barrage qui avait été mis en place par des habitants pour protéger leur quartier. Comment vous avez été accueilli sur place? Est-ce qu'il y avait une certaine hostilité? Est-ce qu'au départ, ils vous ont dit non, puis ils ont accepté à force de discussion? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous êtes bien accueilli sur place?
Ouais, grosse hostilité générale à parler à des journalistes, a fortiori de métropole. En fait, le barrage où on était nous hier, c'est vraiment le profil de résidents qui veulent mettre leur bien, leur famille à l'abri et donc qui se protègent. On est allé sur place en ne prenant même pas la caméra et en discutant avec eux. Et en fait, au bout d'une demi-heure, c'est la première fois que ça m'arrive, ils parlaient, ils nous racontaient. Et puis au bout d'une demi-heure, ils disent « Mais enfin, pourquoi vous nous filmez pas pour raconter ce qu'on fait ?» Et on leur dit « Bah oui, pas de problème. » Donc il y a eu des conditions, il fallait pas qu'on filme leur visage, qu'ils ont peur d'être reconnus après et qu'il y ait des représailles. Donc voilà, au bout de discussion, on a réussi. Mais d'une manière générale, il y a évidemment un contexte particulier à Nouméa. Il y a toute une une partie de la société qui rejette tout ce que peut représenter l'État, les institutions, et donc les médias, les grands médias de métropole, donc forcément BFM TV, donc nous sommes l'ennemi de base avant même d'arriver. Et il faut dealer avec ça. Il faut... voilà, on est de Paris, on est voilà du côté des institutions, en tout cas c'est vu comme tel, et c'est tout ça qu'il faut combattre ou passer pour pouvoir se faire accepter et parler à tout le monde.
Tu me disais même que sur les réseaux sociaux, indépendantistes particulièrement, ça commençait sérieusement à parler du fait qu'une équipe de BFM TV, mais comme d'autres médias, était arrivée sur l'île.
Oui, il y a un côté un peu, et ça y est, les grands médias arrivent, ils vont raconter, ils vont s'emparer du conflit et le raconter, on n'a pas envie, pourtant nous on relaie ce qu'on voit, et en même temps je pense qu'il y a toute une grande partie qui est très content qu'on parle d'eux et qu'on relaie ce qu'on voit, mais effectivement sur les réseaux sociaux il y a tout ce que font les médias venus de Paris qui est scruté, nous il faut qu'on regarde régulièrement si par exemple, on n'a pas vérifié où est notre adresse pour des raisons de sécurité. Donc ça passe aussi énormément par les réseaux sociaux, bien que TikTok est censé être interdit.
Merci Clémence, merci beaucoup, merci Domiti. Il est 21h passé, 21h03 exactement chez vous, en Nouvelle-Calédonie. C'est quoi le programme de la soirée, là, vite fait ?
Eh bien là, actuellement, Clémence est en train de faire des directs pendant que je suis au téléphone avec toi. Et après le programme de la soirée, on fera un montage pour un sujet de demain matin pour la matinale.
Bon duplex, passez bon montage, passez une bonne soirée, reposez-vous bien. Et puis, on se voit bientôt sur BFM TV et au téléphone pour nous. Bonne soirée.
Bonne soirée.
C'était l'épisode 62 du service reportage, à retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur bfmtv.com. À bientôt.